Alors, je voudrais vous rappeler que globalement, j'avais expliqué qui était Jésus et qu'il facilitait aussi nos relations avec le Père des cieux, mais aussi entre les hommes. Et globalement, dans le domaine des relations humaines, Jésus a donné une voie extrêmement importante, basée sur la vérité, basée sur la sainteté et sur l'assistance du Saint-Esprit. Bon. J'ai traité plusieurs fois de cette obéissance. J'ai parlé une première fois de l'obéissance à la loi, telle qu'elle avait été donnée au peuple juif, à Moïse. Et puis, l'obéissance à Dieu dans l'Esprit Saint. Et puis ensuite, j'ai parlé de... J'ai préparé une prédication sur l'obéissance dans le futur, dans le royaume de Dieu, sous la royauté de Christ, mais il y a une obéissance ici, dans notre société, même si notre société est dirigée dans le péché, par des hommes imparfaits, il y a de la part de Dieu des recommandations et des règles pour respecter l'ordre établi, respecter la société et les lois civiles. Donc c'est extrêmement important de prêter attention à ça. Par exemple, je dis ça, c'est peut-être stupide, mais un chrétien peut-il doubler sur une ligne blanche? Peut-il brûler des stops? Peut-il prendre un rond-point à l'envers? Si sur l'autoroute c'est marqué 130, pourquoi ferait-il du 180? Hein? Si il est interdit de jeter des bouteilles de coca, de plastique et des papiers par la fenêtre de la voiture, le chrétien peut-il le faire malgré tout, comme tous les autres le font, comme beaucoup d'autres le font. Vous voyez, il y a quand même un questionnement. Hein. Si tout le monde blasphème et jure, regarde des films porno, le chrétien peut-il le faire? Oui. Tout ça, c'est ce genre de questions quand même qui se posent tous les jours à notre conscience. Alors, respecter le monde, ce n'est pas forcément l'idolâtrie. Vous savez très bien que dans la première épître de Jean, chapitre 2, nous allons voir tout de suite, la première épître de Jean, chapitre 2, il est dit clairement quelque chose à propos du monde. La Bible ne parle pas en mal du monde, elle parle en mal du péché. Hein? Le monde appartient à Dieu. Dieu aime l'homme. Mais ce qu'il y a, il n'aime pas le péché. Confondons pas. Donc quand la Bible dénonce quelque chose, elle dénonce le péché et l'œuvre de Satan. Elle dénonce pas, elle ne veut pas enfoncer l'homme. Bon, dans 1er épître de Jean, chapitre 2, au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Chapitre 2, verset 15. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc de l'humain, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez que le message est clair et il a été donné comme ça partout par les apôtres. Hein. Quelle est la victoire pour être dans le monde sans tomber dans l'amour du monde? Eh bien, au verset 14, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 14, je vous ai écrit, Père, donc aux adultes, parce que vous avez connu celui qui était le commencement, donc Jésus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, la parole de Dieu est l'élément indispensable pour avoir de la force contre l'amour du monde, contre les convoitises, et indispensable pour la victoire. C'est un message tout clair, tout simple, et je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin de s'étendre longtemps sur ça. Mais, évidemment, au sein même des chrétiens, au sein même des gens de la Bible, il peut arriver que des personnes travestissent le sens des paroles et entraînent une partie de la chrétienté à aimer le monde, à être dans l'orgueil de la vie, tout en portant le nom de chrétien. Alors, regardons dans toujours la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, la dernière heure, c'est depuis que Jésus est mort et ressuscité sur la croix, n'est-ce pas? Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc clairement, à travers cette chrétienté à travers le monde, il y a du faux et du vrai, et il y a des gens qui sont réellement du monde. C'est même pire que de se dire athée. Ils se travestissent en chrétiens, ils ne le sont pas. Et au verset 20, pour vous, donc pour ceux qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur, qui sont dans la parole de Dieu, qui ne se complaisent pas dans les œuvres du malin, regardez, verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, il y a un combat entre le mensonge et la vérité, évidemment. Au sein même de la chrétienté, depuis que Jésus est mort et ressuscité, depuis que les apôtres ont prêché. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu et à la vérité est nécessaire pour que le peuple de Dieu reste sur le chemin. Parce qu'il y a au sein de tous ceux qui sont chrétiens des antéchrists qui cherchent à ce qu'on désobéisse à la vérité et à la sainteté de Dieu et à Jésus. Donc, la forme d'obéissance que Dieu demande pour lui est agréable, concerne notre relation avec Dieu, concerne notre relation avec les autres et notre façon de voir la société, notre façon de s'y insérer. On ne peut pas vivre n'importe comment dans la société quand on est chrétien. Alors, prenons la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, c'est un petit verset. Mais bon, dans tout le contexte de l'épître aux Corinthiens, il y avait beaucoup de désordre dans cette épître, dans cette église. Il y avait énormément de désordre. Et du désordre à cause de l'orgueil, à cause de l'impureté, à cause des dérèglements de chrétiens dans cette église, et aussi la présomption. Ils pensaient avoir des dons exceptionnels, etc., de miracles, de guérison, des dons des langues, et ils se permettaient de déroger à un principe, c'est l'obéissance. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Le désordre déplaît à Dieu, et l'Église de Jésus-Christ, la vraie, n'est pas pour le désordre, pour le chaos, pour l'anarchie. L'ordre et la paix sont associés ensemble. C'est comme les deux jambes de mon corps. Leur effet est bilatéral. Ma jambe droite aime ma jambe gauche. Elle aide ma jambe gauche à marcher. Et ma jambe gauche aide ma jambe droite à marcher. Eh bien, l'ordre et la paix sont deux instruments fondamentaux de la vie du chrétien. L'ordre sans la paix, ce n'est pas ce que Dieu veut. La paix sans l'ordre, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut non plus. Les deux sont bénéfiques à l'être humain et sont agréables à Dieu. Prenons la première épître de Jean, chapitre 5. Après l'épître aux Hébreux, il y a Jacques, Pierre et puis l'épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 5. Verset 18. Nous savons... 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Donc, rappelez-vous l'onction, le mot onction, c'est-à-dire avoir reçu le Saint-Esprit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bon, celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Mais pourtant, dans la même épître, Jean dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comment démêler ça? Bon, celui qui est chrétien qui dit qu'il ne pèche pas est un menteur. Ben oui, c'est un arrogant, c'est quelqu'un qui se prend plus haut que les autres et à l'égal de Dieu. Il est en chemin pour ne plus pécher. Il est en chemin pour être purifié par Jésus-Christ et il déteste le péché. Il a la haine du péché, mais il est faible et il a besoin du secours et du pardon de Dieu tous les jours et de vivre dans la repentance, dans la parole de Dieu, dans la prière, pour que le péché ne prenne pas autorité sur lui. Mais il est là, à la porte. Le péché est à la porte. Chez nous, on a dit, chat, vous ouvrez la porte un petit peu, il y a toujours un chat qui nous passe, un des 10, entre les jambes. Le péché rentre dans la maison, dans le cœur. Toujours d'une manière ou de l'autre. Il faut donc avoir une grande vigilance pour ne pas le laisser envahir la maison. Et de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, de notre corps. Mais qu'est-ce qu'il s'est mis? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, ça veut dire il n'a pas choisi de pécher, il n'a pas choisi, décidé d'entretenir le péché et de vivre suivant les principes du péché. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, etc., ce que nous avons lu un peu avant dans la même épître. Il ne vit pas suivant ces principes-là, il vit selon Jésus-Christ. Donc, fondamentalement, dans son cœur, il n'adhère pas au péché. Bien qu'il puisse pécher, parce qu'il est encore imparfait. Donc c'est ça, il n'adhère pas, il n'a pas d'amour pour le péché. Hein? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, donc il est vigilant. Il prend garde, il s'examine. Et s'il a péché, ben il a la honte et il se corrige. De lui-même, ou grâce à l'amitié d'un autre chrétien qui lui fait remarquer, etc., ou en lisant la Bible, où vraiment Dieu nous conseille et nous montre ce que nous sommes. Alors, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, mais il a une responsabilité, le chrétien, vis-à-vis de lui-même. On ne peut pas toujours se donner des excuses. Et le malin ne le touche pas, c'est-à-dire il n'a pas pris autorité sur lui. Le malin n'a pas d'autorité sur un chrétien. Le malin peut lui suggérer des tas de choses, le tenter, essayer de le détourner, mais il n'a pas l'autorité. C'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Alors, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, il y a une intelligence venue chez le chrétien pour voir, oula, ça, Dieu ne veut pas ça dans ma vie. Ça, je ne veux pas. C'est ça leur intelligence. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Si je suis en communion avec Jésus et que je l'aime, il y a clairement, je suis dans un camp, et même s'il m'arrive de passer un pied de l'autre côté de la limite, de tomber dans tel ou tel péché, je ne veux pas aller dans le camp de Satan, et je regrette, et surtout je demande pardon, je me repens, et je combats pour ne plus le faire. Et je demande le secours de Dieu, le secours des frères aussi, des sœurs, de l'Église, de la prière. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, le Dieu véritable, la vie éternelle. Un beau verset pour dire aux témoins de Jéhovah qu'ils se trompent quand Jésus n'est pas Dieu. Et d'autre part, ça c'est complètement à l'envers du Coran. Dans le Coran, il est impossible que Jésus soit Dieu. Hein? Eh bien là, nous avons clairement une affirmation. Donc, toutes les religions ne sont pas les mêmes et on ne peut pas mettre tout dans le même sac. Hein. Quand un musulman est honnête, j'en connais beaucoup, eh bien, il sait très bien que nos fois sont pas opposées forcément, mais séparées, différentes et quasiment inconciliables sur certains points, ce point-là essentiellement. Petits enfants, gardez-vous des idoles, donc il n'y a pas à avoir d'idole. Mon jeu, mon sexe, mon portefeuille, mon orgueil ou des tas d'autres choses. C'est clair, le péché n'est pas mon roi. Sous n'importe quelle forme. Prenons Matthieu chapitre 4. C'est un préambule, hein? C'est un préambule. Je n'irai pas loin aujourd'hui du fait que J'ai commencé tard. Non, dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Vous savez que Satan n'est pas un rigolo. Satan propose toujours la même chose, tout le temps à l'homme. Il est coriace et il sait où sont les points faibles des hommes. Mais devant Jésus, il a échoué. Donc si on veut pouvoir lui résister, il faut être le Seigneur Jésus. Par nous-mêmes, on ne peut pas résister à Satan. Matthieu chapitre 4, Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, confrontation entre l'ange de lumière, Satan, et le Fils de Dieu. Délibéré, voulu par Dieu le Père, hein, sur terre. Hein. Et encore aujourd'hui, il y a la confrontation entre le Christ et Satan. Hein. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La faim, la boustifaille et tout le reste qui tourne alentour est le premier domaine où Satan nous attaque. Il est très difficile pour un chrétien de ne pas remplir ses frigos et tout le reste derrière pour en avoir partout. Très difficile. À moins qu'il compte vraiment sur la providence, de manière claire, mais ce qu'il y a, vous voyez bien, l'attaque de Satan se joue sur les choses de base. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et amour selon Saint-Esprit. C'est clair. Et Jésus l'a dit dans Luc chapitre 12, pourquoi vous inquiétez-vous de quoi vous serez vêtu, de quoi vous nourrirez? Regardez les oiseaux, comment ils mangent. Hein, ils n'ont pas de grenier, de salier. Regardez comment est vêtue la lys des champs. Et pourtant, ils ne filent pas, etc. Ils ne tissent pas des habits. Et ils sont mieux habillés que Salomon, dans sa gloire. Alors, vous, hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Vous voyez donc bien que c'est un point essentiel sur lequel Jésus a essayé de nous donner des convictions différentes qui ne sont pas liées à nos instincts, à des sécurités fausses. Des sécurités fausses. Alors, l'attaque de Satan est d'abord sur le garde-manger et tout ce qui tourne alentour. La deuxième chose, donc, il y a un principe. Est-ce qu'il faut toujours être obsédé par ça? Ou est-ce qu'il faut d'abord mettre Dieu au premier plan et compter sur sa providence, sa direction? Maintenant, Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le basculement avec Jésus, c'est de se nourrir d'une bonne relation avec Dieu et de sa parole. Le basculement que le Saint-Esprit veut faire chez un chrétien, c'est ça. Donc, quand vous avez le monde, il est obsédé par tous ces trucs-là, économiques et tout le reste. Hein? Et pour le chrétien, c'est différent. En principe, en tout cas. Spirituellement, c'est très différent. Alors, si le monde est travaillé par l'intérêt et la peur, le vrai chrétien est travaillé par la confiance en Dieu et il est soumis à l'action de Dieu pour son présent et son futur. Maintenant, Satan est toujours là pour essayer de déplacer les priorités et de troubler les esprits. À nous de savoir où on veut en être et de ne pas être confus. Maintenant, il y a un autre point, c'est verset 5, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, il est écrit, etc. » Il prend une parole du psaume 91, où il est prévu dans le psaume 91 que les anges vont protéger Jésus, le sortir du tombeau, ouvrir le tombeau. Mais lui, il prend ce verset-là pour pousser Jésus à faire le kamikaze. Bien, aujourd'hui, qui montera à l'Everest sans bouteille d'oxygène, qui plongera le plus profond, qui fera le lancer à la perche, le saut à la perche le plus haut, qui fera le match de boxe, etc., à répétition, qui gagnera toujours. Vous avez toujours une doctrine incessante de l'exploit. Pour les matchs de football, etc. La doctrine incessante de l'exploit, de l'hypervalorisation. Où tout le monde finit un jour le bec dans l'eau et est remplacé par un autre. C'est une course folle à l'instinct de puissance et à l'hypervalorisation. Jésus a refusé. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu, nous voyons bien. Deuxième chose de nouveau pour l'islam et pour les témoins de Jéhovah, Jésus se définit comme Dieu. Ici, les deux versets essentiels qui nous séparent de beaucoup de monde, parce que nous considérons que Jésus est Dieu venu en chair sur la terre. Hein? Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut créer de l'hostilité, des bagarres. Moi, jamais je n'ai fait une bagarre avec quelqu'un d'une autre religion. Je pense qu'il faut être patient, il faut se parler, essayer de s'aimer et de dire les choses comme elles sont, gentiment, puis c'est tout. Mais ce qu'il y a, regardez bien cette tentation de Satan de faire de chacun un super phénix, un super sportif, un super financier, un super, etc. Et maintenant, tout ça est venu dans les films, dans les petits les dessins animés des enfants, et ça rentre, ils arrivent à l'école avec cet esprit, tout petit. Ils arrivent. Et sur la route, regardez les super phénix, comment ils roulent. Pas besoin de faire un dessin. Et c'est la même chose en finance, c'est la même chose dans tout. Si bien que cet esprit de super phénix est extrêmement fort, parce que il y a actuellement 100 familles qui détiennent 80% de la richesse mondiale. Et sur les 100 familles, dans 10 ans ou dans 5 ans, il y en aura 50. Puis un jour, il y a l'Antichrist, il y a tout à lui. C'est la technique de Satan, de pousser dans l'hypervalorisation. Et Jésus a refusé. Dieu n'est pas de ce côté-là. Un chrétien n'est pas de ce côté-là. Un chrétien ne doit pas être de ce côté-là sur les principes mensongers et orgueilleux du monde. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire. Vous parlez d'une gloire, hein? Chacun ses tanks, chacun ses palais, chacun ci, chacun ça, hein? Vous comprenez? Ces établissements faramineux, pharaoniques. Un c'était les pyramides, l'autre c'est le Taj Mahal, l'autre c'est quoi? C'est aller au Maroc, la belle mosquée au bord de la mer, etc. Aller à Bruxelles. Hein, et tout, vous verrez que tout le monde veut briller de grande gloire. Aller à Rome, vous verrez, la place Saint-Pierre. Alors pratiquement, tout ça, qu'est-ce que Jésus en dit? D'abord, Satan lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul. Aucune séduction sur le théâtre de ce monde, de tous ces trucs-là, ne doit plaire à un chrétien. Oui, c'est bien fait, c'est pas mal. Dieu a donné des grands dons aux hommes, oui. Cette cathédrale est magnifique. Ce morceau de musique est grandiose. Dieu a donné des grands dons, je remercie Dieu. Je ne me mets pas à genoux devant la cathédrale, ni devant le compositeur de musique. Je ne me mets pas à genoux devant monsieur le mathématicien ou l'inventeur de ci ou de ça. Je remercie Dieu qu'il a donné de l'intelligence à cet homme-là pour inventer telle ou telle chose, du moment que c'est fait pour le bien de tous. Donc, nous adorons Dieu seul, nous n'avons pas de Superman, d'idole humaine, parce que là c'est le problème, c'est ce que Satan propose à Jésus, de devenir une idole humaine et diabolique. Forcément, il faut mettre tous les autres sous ses genoux. Alors que Jésus est venu comme serviteur en se faisant le dernier. Le diable le laissa, voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc dans notre vie dans le monde, il se pourrait que le diable soit dégoûté à la longue quand on est fidèle On est dans les principes de Jésus de manière régulière. Quand on s'examine, qu'on lit la parole et qu'on prie, le diable est dégoûté et se tient loin de nous. Mais si on n'est pas prudent, oh là là, qu'est-ce qui peut tourner et qu'est-ce qui va faire comme misère? Comprenez-vous? C'est un peu dans tout ça, ce sont des préalables. Alors, prenons Matthieu 25. Matthieu 25. Et après, je vous demanderai l'heure pour savoir si j'aborde un petit peu le détail.
Il est midi 10.
Midi 10, oui, oui. On pourrait rajouter un petit point peut-être. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Vous savez bien que c'est la parabole des talents. Celui qui avait 5 talents, qui en a fait fructifier, ben, il avait reçu de l'amour de Jésus, il avait reçu de l'intelligence, il avait reçu des mains, et il a servi les autres, il a rendu service, il a amené quelques personnes à Christ, et pratiquement, Dieu lui a dit, mais voilà, tu as 10 talents, maintenant moi je vais encore t'en donner 10. Hein? C'est-à-dire, je vais te faire prospérer dans ta vie chrétienne, je vais te faire abonder dans la vie du Saint-Esprit, dans les œuvres, dans les actions du Saint-Esprit. Maintenant, pratiquement, il y en a un qui en a 3, et c'est la même chose, il a mis en valeur, et au verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ce principe est resté dans le monde protestant. Quand vous allez en Suède, un homme politique n'a pas de grande limousine avec un chauffeur. Il prend le bus comme tout le monde, il prend des tickets dans le bus, et il les donne s'il veut être remboursé, c'est tout. Et ce qu'il y a, tous ses comptes en banque apparaissent sur l'Internet et tous les citoyens de Suède peuvent savoir en Norvège combien il en est. Pourquoi? Parce que le principe dans les pays protestants est ceci, un homme qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui en confier des grandes. Donc il est digne d'avoir un rôle en politique s'il est digne dans les petites choses. Et il faut qu'il le montre. Moi, quand j'étais à l'Institut, j'avais 42 ans, et la dame et le monsieur qui voulaient bien m'aider, j'ai travaillé 5 heures tous les jours en rentrant à l'Institut, pour gagner 750-800 euros, hein. Et pratiquement, je ne pouvais pas, il fallait que j'étudie la nuit, j'ai dormi 3h15 pendant 3 ans, hein, sauf le week-end, 6, 7, 8 heures parfois, mais il y avait les enfants aussi, il faut se lever, etc., le ménage, le jardin. Donc, pratiquement, je ne dormais pas 15 heures le week-end. C'est impossible. Et pratiquement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là m'ont dit, « Oui, on va t'aider. Combien veux-tu ?» J'ai fait mes comptes et je dis 450 euros, si vous voulez. « Oui, c'est d'accord. On te demande une condition, c'est que tu nous donnes tous tes comptes en détail pendant toutes les années de tes études. » Je l'ai fait. Et ils m'ont dit, « C'est parce que nous partons du principe que si tu le fais maintenant, plus tard, quand d'autres t'aideront, tu le feras encore. » Et Dieu verra ce que tu fais. Et tu ne t'apprendras pas à prendre l'argent des autres et à le cacher et en faire ce que tu veux dans le mensonge. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord sur le principe. C'est avec Dieu que je vais faire mes études. C'est avec Dieu que je vous remets mes comptes. Et à la mission où je suis, on était sur la mission au départ. On était 2 à remettre nos comptes régulièrement. Je le fais toujours. Je pense que d'autres maintenant le font, j'espère. La mission l'avait demandé. Je n'ai pas à me mêler des problèmes des autres, mais ce qu'il y a, je demande à Dieu que tout le monde le fasse. Parce que c'est comme ça qu'on est béni. C'est comme ça qu'on est béni, réellement, les vraies bénédictions. C'est quand il n'y a pas d'eau trouble. Je n'aurais pas voulu me comporter avec ce couple-là comme Ananias et Séphira, ou vis-à-vis maintenant de la mission. Et pratiquement, si vous voulez, ce principe-là est resté dans les pays protestants. Quand vous regardez ce que le monde politique coûte en France, il coûte autant que Louis XIV. Avec toute sa cour et ses festivités à Versailles, c'est, je pense, 152 milliards d'euros par an, ou 132 milliards. C'est faramineux, mais c'est logique. Vous comprenez bien qu'ils ont tous envie de rester au-dessus. Et ils peuvent passer devant les caméras, ils ont de quoi payer les télévisions pour repasser avec autant de fric. Donc il y a une corruption parce que les principes de vie ne sont pas les mêmes dans le sud où la Bible, de l'Europe où la Bible n'a pas d'autorité, et dans le nord. Bon, naturellement, je ne vais pas dire que dans le nord de l'Europe, maintenant, la Bible a encore autorité. Elle a partiellement encore autorité. Partiellement, oui. Mais ça se fait grignoter au fur et à mesure. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le sud, je ne vois pas d'autorité de la parole de Dieu pour l'autorité du péché. C'est ça qui amène le cafouillis. Parce qu'on avait mis en 1064 la Bible à l'index, interdit de la lire par l'Inquisition. 9 siècles interdits. Le résultat est sur ces pays-là maintenant, on le voit. Alors, c'est pour vous dire que la Bible et la parole de Dieu sont une source de vie pour les peuples, pour les principes de la vie civile. Pas seulement pour la prière dans la chambre et pour mes relations avec Dieu. Dans le monde, la Bible a autorité. Donc, rappelez-vous ces versets de Matthieu 25, versets 21-23. Ils sont indispensables pour que vous mettiez votre vie parfaitement en ordre. Si vous n'êtes pas au clair avec le Seigneur dans les petits trucs, vous ne pouvez jamais vous trouver confié quelque chose de plus important et pour servir le Seigneur. Matthieu 18. Matthieu 18. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a un seul maître dans la conscience du chrétien qui lit la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Un seul maître, mais ça doit être le vrai maître. Ça ne doit pas être un semblant. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Sachant bien que le royaume des cieux, c'est le temps de la chrétienté sur terre. Quand Jésus reviendra, qui résistera les saints et qui l'aura mis de côté le reste, ça s'appelle le royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Les terminologies dans Matthieu ne sont pas tout à fait les mêmes que dans Marc et Luc. Donc, le royaume des cieux, c'est la chrétienté. Il y a des brebis, des boucs, du blé livré, etc., dans le temps présent. C'était une pédagogie voulue par Matthieu. Parce que les Juifs étaient habitués à la façade, au légalisme, à la religiosité. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ils voulaient la vérité, Matthieu, au nom de Jésus. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, la conversion, c'est un changement, métanoïa, complet, à 180 degrés, pour se détourner de la voie dans laquelle on était, et qu'on est maître, et devenir comme un petit enfant. Quand vous voyez ici, là, pendant le spectacle, les enfants déjà sont plus, hein, ils réagissent, ils sont tout contents. Lémuel est dans les bras de son papa, il est tout petit, il est complètement dépendant. Il est très dépendant. Qu'est-ce qu'il fait? Il croise les yeux, il ne dit pas grand-chose, il crie, et puis il prend le sein, etc. L'enfant a une dépendance complète. Il ne peut rien par lui-même. Eh bien, le chrétien a une dépendance complète envers son Seigneur. Et il part du principe qu'il ne peut rien sans lui. Qu'il est, il lui appartient. C'est ça qu'il faut savoir. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, donc le mot humble, humilitas en latin vient à donner aussi humus. L'humus, c'est les feuilles des arbres, les branches pourries, ça pourrit, ça fait du fumier, ça, les racines s'en nourrissent, ça fait grandir là. Nous devons mourir à nous-mêmes pour vraiment vivre. Le péché doit mourir en nous pour pouvoir grandir et être dans la vraie vie de Christ. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, donc un chrétien digne de Christ, qui vit comme le Christ lui demande, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais regardez bien, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin qu'on jetât au fond de la mer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est si difficile de faire connaître l'Évangile en Europe? Il y a tellement eu de gens qui ont dirigé la religion et qui ont profité du peuple, profité de tout le monde, usé de la violence, fait assassiner, fait perdre des places à d'autres, etc. Qui ont créé des guerres, qui ont créé des tortures. Et si ce n'est pas des tortures physiques, c'est des tortures mentales, des persécutions. Qu'en Europe, tous ceux qui croyaient ont dû fuir. Et tous ceux qui aujourd'hui restent et voudraient chercher vers Dieu sont dégoûtés, sont scandalisés de ce qui s'est passé. Sont scandalisés des milliards qui sont tenus en main par les grandes religions. Donc, Jésus n'est pas d'accord avec cela. Et tous ces gens qui scandalisent font trébucher tous ceux qui cherchent Dieu. Tous ceux qui cherchent Dieu. Sur le site, il y a des gens qui vont sur le site. Pourquoi ne viennent-ils pas ici? Parce qu'ils ont peur d'être scandalisés. Ils ont peur de reconnaître, de retrouver le même système. Une fois qu'on est dedans, on s'est fait avoir, on va se faire déplumer, on va se faire tromper, on va se faire manipuler. Le refus du scandale est dans le cœur de beaucoup de gens en Europe. Le refus de tomber dans les pièges des religieux, de tout bord et de tout nom. Et donc, Jésus sait ça. Nous, en tant que chrétiens, si nous aimons le Seigneur Jésus, nous devons savoir que les âmes en Europe souffrent et ont été scandalisées, sont encore scandalisées, profondément, et qu'elles ont besoin de compassion, elles ont besoin de patience, elles ont besoin de notre prière pour oser devenir ce que Dieu attend d'elles. Il faut énormément de patience. L'évangélisation en Europe est très difficile. La vie d'une église fidèle à la parole est très difficile parce qu'il faut redresser l'image réelle de Jésus qui a été déformée, qui a été salie, souillée. Ce n'est pas pour ça qu'il faut partir et laisser tout tomber. Il faut agir contre le scandale par un bon témoignage. Alors, regardez. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse, moi, etc. Les amis, le respect des autres est indispensable dans le comportement d'un chrétien, dans toute la société, partout où il passe. Le respect des autres. C'est par son attitude de vie qu'il va montrer ce qu'il est et le Seigneur Jésus en qui il croit. Il y a une forme d'ordre dans la vie du chrétien qui est indispensable parce que la bouche va dire peut-être des mensonges. Mais les actes ne mentent pas. Ou ils mentent. Les gens ont des yeux et des oreilles pour le voir. Et c'est à force de persévérance qu'on gagne la confiance et que quelqu'un vous accorde le crédit pour entendre parler de Jésus. Parce qu'il va croire que vraiment, au bout d'un certain temps, ou longtemps après, que Jésus est dans votre vie. Et que vous ne faites pas partie, que je ne fais pas partie de l'imposture générale qui règne, qui a régné si longtemps en Europe. Le scandale, le chrétien n'y participe pas. Nous allons aborder la fois prochaine, dans les points, je vais arrêter là, c'était le préambule. Le respect de la nature, le respect des hommes, le respect des taxes, le respect des autorités, des juges et des magistrats, le respect des chefs, des patrons, le respect des 10 commandements, le respect du peuple et des ouvriers et des travailleurs, par-dessus. Nous allons aborder le respect de la parole, le respect de la femme, le respect des corps. le respect du sexe masculin aussi. Nous avons abordé tous ces points-là, il y en a bien pour 2-3 dimanches certainement. Tout cela fait partie de la vie civile. Et pourquoi ? Parce que si nous, chrétiens, nous savons exactement comment nous devons nous comporter, nous n'allons pas participer au scandale qui, depuis des siècles, amène des âmes en enfer à cause des mensonges religieux, des abus. Nous ne pouvons pas participer à ce monde. Nous devons apporter la lumière. La lumière doit être sur le boisseau et pas en dessous. La lumière qui nous est confiée est précieuse pour le salut des autres, les amis. C'est pour ça que je vous dis, le respect de l'ordre public, l'obéissance aux règles sociales, c'est par là que le chrétien montre s'il est sérieux avec son Seigneur. Et avec les autres. Et avec les autres. J'ajouterai une chose, dans les autres points, le métier. Chacun doit avoir un métier. Celui qui n'en a pas un doit s'y préparer. Le métier est une compétence. Le métier n'est pas fait rien pour avoir son salaire. Le métier est fait pour apporter quelque chose à la société, pour contribuer au bien de tous. Le métier, ce n'est pas seulement pour avoir quelque chose sur son compte en banque. C'est aussi le diable qui a défiguré ça. Le métier est une participation à l'édification de la société. La compétence professionnelle est quelque chose qui a toujours été défendu dans les grandes valeurs protestantes en Europe. Quelqu'un qui est compétent dans son métier apporte beaucoup de bien aux autres, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Quelqu'un qui se fout de tout, du tiers et du quart, et qui fait son boulot, rien que parce que, ça au pain de la girafe c'est la même chose, rien que pour avoir ses sous, c'est un fils du diable, c'est pas un chrétien. Il faut le savoir. Dans les valeurs évangéliques, la compétence et l'amour d'une profession bien faite font partie des valeurs évangéliques. Ok ? Donc vous voyez que toutes les règles sociales, les lois sociales, c'est important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu m'accorde, en parlant de... Je ne porte pas de jugement sur qui est ici, je veux simplement que la parole de Dieu doit rentrer dans la jointure de notre conscience pour qu'on s'examine et pour qu'on progresse avec le Seigneur dans la vérité. Amen.